Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien chez vous. Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Lorsque l'on pense à des personnes comme Joey Junot, Clara Hughes, Pierre Lavoie, Louis Garneau, André Agassi, bien d'entrée de jeu, probablement que ça vous est passé par la tête, hein, on pense à des sportifs qui ont fait preuve de dépassement dans leurs disciplines respectives. Mais on pourrait aussi penser à des gens qui sont en cause, qui sont impliqués dans leur société, qui sont des moteurs de changement, des leaders, des gens qui suscitent la réflexion et l'admiration aussi. Est-ce que, ça m'amène tout ça à vous poser une question, est-ce que les aptitudes, les apprentissages que l'on développe dans le sport peuvent se transposer dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est du moins la mission que s'est donnée l'organisme Pour 3 points en formant des super entraîneurs qui encadrent de jeunes sportifs sur des terrains de basketball, donc des jeunes sportifs issus d'écoles défavorisées, de milieux défavorisés, afin qu'ils maintiennent leurs efforts, non pas seulement sur le terrain ou dans le gym, mais aussi dans leur vie quotidienne, à l'école, dans leur vie personnelle, quoi. Donc, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Fabrice Ville, lui qui est cofondateur de cet organisme-là, également président de Pour 3 points, viendra nous en parler davantage. Et puis, vous savez, on donne des Oscars hein, à nos artistes, on leur donne également des Félix, mais on souligne un petit peu plus rarement les bons coups de nos institutions de santé. L'Institut Raymond Devoir qui a pour mandat de donner des services de réadaptation pour des gens qui vivent avec un handicap auditif recevait le 14 octobre dernier la désignation Plane Tree, une importante reconnaissance internationale qui a été obtenue grâce à la qualité de leurs services, également par une approche qui est basée sur les besoins particuliers de leurs usagers là-bas à l'Institut Raymond Devoir. Et j'en parle hein, parce que je pense que des fois, il faut pouvoir se lancer des fleurs. J'en parle plus profondément à l'instant avec Mélanie Dumaine, elle qui est coordonnatrice à l'Institut Raymond Devoir, et également Chantal Dumas, coordonnatrice de Plane Tree. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être là. Tout d'abord, bravo, parce que Plane Tree, c'est une reconnaissance très prestigieuse. Il y a 750 membres un petit peu partout dans le monde qui sont membres de cet organisme-là. On pourra davantage le préciser tout à l'heure avec Chantal, Plane Tree. Et avec ce prix-là, cette désignation-là, l'Institut Raymond Devoir devenait un des 70 établissements à atteindre ce haut niveau d'excellence. Tout d'abord, là, pour bien comprendre, pour les gens qui nous écoutent à la maison, ça signifie quoi faire partie de ces 70 établissements-là, Chantal Dumas?
Bien, la première idée qui me vient, c'est de la fierté de pouvoir, dans le fond, avoir cette désignation. C'est un saut de qualité. Ça parle, dans le fond, d'un investissement important, d'un engagement de la part de tous les gens de l'organisation. Parce que quand on reçoit une telle désignation, c'est que l'ensemble de l'organisation, tous les gens qui travaillent dans l'organisation, bien, partout, de façon continue, réalisent des pratiques, que ce soit auprès de la clientèle, que ce soit des pratiques administratives de gestion, qui sont toujours centrées sur la personne. Mm-hmm. Alors, c'est bon de faire partie d'une organisation où il y a ce souci-là qui est présent. C'est dans la culture.
J'imagine que c'est une grande fierté pour vous et pour votre équipe, Mélanie Dumaine.
Bien, effectivement, parce que ça démontre, en fait, le travail, ça nous donne une petite tape dans le dos par rapport au travail qu'on fait quotidiennement pour notre clientèle. Tout ça se fait quand même de façon quotidienne,
ouais.
Mais de se faire dire bravo, ça vient juste nous confirmer que ce qu'on fait, bien, c'est bien, puis ça donne aussi les effets escomptés.
Ça donne envie de continuer, en tout cas.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et de se dire qu'on fait peut-être les choses pour les bonnes raisons.
Exactement.
Chantal Dumas, je reviens un petit peu à cette désignation, Plane Tree. Plane Tree, ça existe un petit peu partout à travers le monde. Ça vient d'où vient ce mouvement-là?
Alors, l'histoire de Plantree, effectivement, ça a commencé, c'est une dame, une jeune dame qui s'est fait opérer, qui avait, dans le fond, des problèmes de santé, des infections, une infection rare, qui s'est retrouvée à l'hôpital en 1977. Et puis, elle est restée longtemps, longtemps dans sa chambre d'hôpital, longtemps à se sentir seule, assez isolée, à être inquiète, à vivre du stress. Puis, bon, finalement, elle a été guérie. Elle a été plusieurs fois près de mourir. Mm-hmm. Puis, ultimement, elle s'est dit, ça n'a pas de bon sens que l'hôpital, on le vive de façon si difficile. Ça devrait être un lieu de guérison, un lieu où on se sent rassuré quand on va à l'hôpital. Et suite à cette expérience assez difficile, bien, elle s'est alliée à des gens. Et ils ont imaginé que devrait être un milieu de soins pour que la personne se sente bien. Alors, déjà l'année suivante, ben Plantree était né. C'est commencé, c'est une organisation américaine d'abord au niveau des milieux de soins et de santé. Puis après ça, comme mentionné plus tôt, là, maintenant, il y a 17 pays qui font partie de l'organisation. Là, ça s'est développé. J'aurais le goût de dire, dans le fond, ce qui a été pensé, c'est qu'est-ce qui devrait être dans un milieu de soins pour que les gens se sentent bien. Mm-hmm. Et ils ont identifié toutes sortes de choses de base importantes qui répondent bien parce que maintenant, ces applications-là se vivent un peu partout. Alors,
j'imagine que le souhait, à quelque part, ça soit que toutes les organisations de santé, les établissements de soins deviennent des membres de Plantree.
Bien, c'est sûr que plus il y en a, je pense que comme la visée principale, c'est d'être centré sur la personne. C'est d'être sûr que l'individu vive une expérience bonne. Je pense qu'on est une société gagnante.
Oui.
Plus il y en aura.
Vos usagers, Mélanie Dumaine, puisqu'ils font affaire avec des gens qui offrent de la réadaptation, j'imagine qu'ils viennent souvent dans vos établissements. Donc, ce souhait-là de... Bon, en premier lieu, de créer un lien de confiance avec eux, mais après, que leur expérience soit le plus positive possible. Quels sont les avantages que vous avez pu observer auprès de vos usagers?
Bien, pour commencer, nous, on travaille avec une clientèle particulière. On travaille avec une clientèle qui communique en langue des signes. Mm-hmm. Donc, il y a tout l'adaptation, la langue des signes étant une langue quand même différente du français. Il y a tout l'adaptation à faire pour cette clientèle-là. On s'est bâti une équipe à travers une restructuration. On a créé une équipe en 2011 qui communique directement avec cette clientèle-là, donc dans un premier temps. Puis, suite à ça, on a développé aussi beaucoup d'outils, de matériel pour pouvoir être en direct avec la personne. Donc, communiquer directement avec la personne, fournir du matériel adapté, personnalisé aussi à l'individu qui se retrouve devant nous, qui se retrouve en situation d'handicap. Qui se retrouve aussi dans des situations au quotidien où il y a des difficultés de communication avec son entourage, avec son employeur et tout. Donc, on a développé une certaine expertise personnalisée des interventions, mais aussi de créer un lien avec le client à travers tout ça. Là.
Mm-hmm. J'imagine que les proches, c'est-à-dire la famille, les conjoints, les enfants de vos usagers, en récoltent les bienfaits également.
Oui, parce que, par exemple, si on développe un outil de communication, par exemple, un cahier de communication avec une personne sourde communiquant en signe, mais qui est, par exemple, analphabète, l'écriture, la lecture, l'écriture, c'est pas un moyen qu'on peut utiliser. Donc, le fait d'avoir, par exemple, un cahier avec lui au quotidien lui permet d'avoir une communication satisfaisante autant pour lui que pour son entourage. Donc, tout ça, bien, crée des effets positifs chez l'individu en diminuant, par exemple, la nervosité, en diminuant différentes situations qui pourraient s'envenimer aussi, par exemple, avec un employeur.
Chantal Dumas, est-ce que c'est difficile d'obtenir une désignation « Plantree » Il faut passer par quel genre de cheminement ou de...
Des étapes, finalement.
Ouais.
Mm-hmm. Bien, je dirais que la première étape, c'est qu'il faut que l'organisation ait bien voulu adhérer à cette approche-là.
Ouais.
Dans le fond, ce que ça représente, de mettre en place des structures, d'avoir des gens qui vont avoir un regard particulier par rapport à l'approche. Puis, ben, quand on est plus proche, puis qu'on se dit, oui, on veut aller chercher la désignation, parce qu'on peut être affilié à l'organisation Plantree sans rechercher la certification. Mm-hmm. Mais quand on la recherche, dans le fond, on a 51 critères auxquels on doit répondre.
Wow.
Parce que la désignation, là où on se dit, c'est un haut standard, hein, il faut avoir 100 % okay. pour avoir la désignation.
99,5, ça ne fonctionne pas.
Ben, non. C'est alors, on a nos 51 critères qu'ils ont, tous comme visée, d'une façon ou d'une autre, d'être proche des individus, de s'assurer qu'on en est proche. Alors, on a un rapport dans lequel on écrit toutes nos pratiques, partout dans l'organisation. Et une étape importante, une fois qu'on a fait ça, puis déjà, ça se dit vite, mais ça prend le temps de se donner nos pratiques puis de les généraliser. Parce que des fois, on se dit, ah, dans tel programme, ils font telle bonne affaire, mais ah, tel autre le fait pas. Alors, à travers ça aussi, on s'assure mm-hmm. que ben, partout, on maximise ce qui peut se faire. Et puis, il y a une étape de discussion de groupe, focus group. Parce que on peut se dire, quand on dit on est centré sur la personne, c'est pas quelque chose qui est théorique. Ouais. Si ça marche, parce que la personne, en bout de piste, elle est satisfaite.
Ouais. Elle se sent mieux, oui. plus écoutée.
Oui, oui, elle s'est sentie à l'aise, ouais. elle a fait les pas qu'elle souhaitait faire, elle a eu le soutien qu'elle a souhaité. Alors, les focus groups qui se vivent à la fin de la démarche, c'est pour aller vérifier. C'est beau tout ce qui est écrit, mais dans le concret, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous vous êtes senti écouté? Est-ce que vos proches étaient présents? Est-ce qu'on vous a consulté? Toutes ces questions-là vont être adressées autant. Puis l'approche Plantree qui est intéressante aussi, c'est, on parle mais surtout des usagers maintenant, mais ça concerne aussi les gens, le personnel. Parce que ouais. l'intérêt, mm-hmm. c'est que, dans le fond, tout le monde puisse bénéficier d'une bonne expérience. Puis que autant l'épanouissement du personnel soit bon. S'il est bon, on sait que, dans le fond, dans le rapport, après ça, avec la clientèle, ça va juste être meilleur. Alors, il y a cette étape-là qui est importante. Puis, il y a un comité international composé de gestionnaires, d'usagers, de gens d'un peu partout qui vont évaluer notre demande. Et ben, ultimement, on nous dit...
Si on est bon élève, ça va fonctionner.
Oui, c'est ça.
Mélanie Dumaine, vous qui êtes coordonnatrice à l'Institut Raymond Devoir, donc qui travaillez en ces murs de façon quotidienne, quel bénéfice vous pouvez voir ou entrevoir de cette nouvelle certification-là? En tant qu'employé, bien sûr.
En tant qu'employé, je dirais que c'est tout ce qui est l'environnement physique humain que ça crée. Donc, des aspects très positifs de mobilisation au travail, d'encouragement aussi dans nos bons coups. C'est tout ça que ça fait soulever. Donc, un encouragement aussi à poursuivre les choses qu'on fait déjà ou qu'on continue d'améliorer notre intervention aussi mm-hmm. au quotidien.
Et vos usagers, je le disais tout à l'heure, vivent avec un handicap auditif. Est-ce qu'ils ont pu, eux, témoigner des bienfaits de la certification?
Bien, en fait, c'est ça, c'est difficile de mesurer, mais on a quand mm-hmm. même observé quand même une amélioration à travers les années, en fait, depuis 2011 jusqu'à 2014 à peu près, là, les derniers chiffres qu'on avait, on avait quand même une amélioration de notre quantité de personnes qui sont venues nous rencontrer, qui sont venues chercher des services chez nous, une augmentation de 12 % Pour nous, c'est très significatif ouais. parce que ça parle de notre intervention qui est vraiment adaptée à leurs besoins personnalisés. Donc, ça parle que c'est apprécié.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez des expériences peut-être concrètes de ça peut être quoi pour une personne qui vit avec un trouble de l'audition, malentendant ou encore personne sourde, une expérience positive, en matière de santé et de soins?
Oui, bien, par exemple, on a un projet qui est avec le Cirque social en collaboration avec le Centre Lucie Bruneau. On a des jeunes de notre centre qui ont participé à ce projet-là. Donc, on a une jeune sourde justement de notre clientèle qui a participé à cette activité-là était pour, en fait, l'objectif était beaucoup de développer l'autonomie de ces jeunes-là et était la seule personne sourde communiquant en langue des signes dans le groupe. Il y avait différentes personnes avec des handicaps multiples. Donc, seule personne sourde, mais c'est très, très bien intégré. On a même revu les gens, les jeunes du groupe durant l'été. Vraiment une jeune épanouie mm-hmm. puis qui est motivée à poursuivre là, son développement puis le développement de son autonomie.
Et j'imagine qu'après avoir reçu cette certification-là ou du moins d'être membre de Plendry, on a envie de teinter toutes nos actions de par cette approche personnalisée, cette approche qui est plus, je dirais, humaine. Donc, les communications, le site web, bon, on pourrait parler des communiqués de presse. J'imagine tout ça doit être teinté par la philosophie.
Bien, c'est sûr que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Donc, notre site web, il y a beaucoup de choses, de parties qui sont accessibles maintenant en langue des signes, par exemple. Maintenant, en faisant partie d'un CIUS, le CIUS a déjà pris ça aussi sous son aile pour rendre le plus de documents, autant organisationnels que des communiqués de presse, accessibles en langue des signes. Mm-hmm. Donc, c'est pour notre clientèle, bien, ils ont accès en même temps que toutes les autres personnes, les entendants, à l'information. Donc, c'est important pour eux. Ça crée moins d'angoisse, un peu comme je disais tout à l'heure, mais ça répond aussi à beaucoup de questions qu'ils ont dans leur quotidien auxquelles ils n'ont pas de réponse.
Oui. J'imagine aussi qu'à quelque part, ça doit amener cette espèce d'autonomie, de prendre en main notre santé, de se responsabiliser face à notre mieux-être.
Oui, exactement. En fait, de savoir ce qui se passe et ce qui s'en vient, bien, ça permet de se réajuster rapidement. Donc, de là, l'importance de rendre le plus de choses accessibles pour ces personnes-là.
Mais là, s'il y a eu une augmentation de vos usagers, est-ce que vous avez les professionnels pour faire face à ce besoin-là?
Bien, ça, c'est toujours une bonne question.
C'est un beau problème.
Dans notre contexte, en fait, on est un organisme gouvernemental. Non, mais c'est toujours une bonne... bonne question, mais oui, on y arrive en desservant notre clientèle, où on y arrive très bien quand même, malgré tout.
Chantal Dumas, on a parlé beaucoup, bien sûr, aujourd'hui, de l'Institut Raymond Demoir, mais bon, j'imagine que la certification, la désignation Plendry peut bénéficier à d'autres types de clientèle. Est-ce que vous avez pu observer des projets extrêmement significatifs, très positifs?
Oui, bien, dans le fond, quand on fait partie du programme Plendry, au Québec, on a un regroupement qui s'appelle Réseau Plendry Québec. Et toutes les organisations québécoises font partie de cette association-là. Et puis, il y a une communauté de pratiques importante. On partage effectivement beaucoup des bons coups qui se passent d'un endroit à l'autre. Bons coups qui sont extrêmement inspirants. On se rend compte, là, on arrive d'un congrès, le congrès Plendry, où justement, on est allé chercher notre certification.
Et certains prix aussi.
Oui, ben oui, on a eu...
Trois prix.
Oui, ben, il y avait trois, on appelle les Spirit of Plendry Awards, dont ben, Mélanie, qui est ici, justement, elle a donné plusieurs exemples. Un des prix, c'était lié au projet de toutes nos adaptations à la communication puis au respect de la culture pour la clientèle sourde. Alors ça, c'est un prix. Un deuxième était lié au cirque social, à l'intégration. Puis un troisième, c'est notre personne inspirante. Plendry, on se dit, c'est centré sur la personne, ça passe par les gens. Oui. C'est pas des techniques qui font qu'on est centré sur les gens. Alors, on a une personne qui a été nommée par ses pairs parmi les employés qui a aussi été reconnue là, pour l'occasion.
Et j'imagine que c'est un moteur assez satisfaisant de se dire que l'Institut Raymond Demoir peut devenir également une source d'inspiration pour d'autres établissements de santé, et ce, même un petit peu partout à travers le monde.
Ben oui, oui, je pense, c'est sûr que je prends notre clientèle, mais je pense à notre clientèle qui est particulière. Le fait de se faire reconnaître, en fait, étant donné que c'est pas une clientèle en grande quantité.
Et qu'il y a des besoins extrêmement particuliers.
Exact. Le fait d'avoir pu développer une expertise particulière pour accueillir, recevoir cette clientèle-là et les accompagner dans un cheminement vers le développement de l'autonomie et de se faire donner une petite tape dans le dos, ça fait juste reconnaître le travail qu'on fait et ça nous donne le goût aussi de le partager à d'autres organismes qui partagent le même type de problématiques, de clientèle. Et
ça doit donner envie de se lever le matin pour aller au boulot, hein, Mélanie?
C'est un peu plus agréable, oui, effectivement.
Eh bien, merci à vous deux. Chantal Dumas, je le rappelle, vous êtes coordonnatrice de Plendry et Mélanie Dumaine, coordonnatrice à l'Institut Raymond Dewar. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir souligner avec vous ce bon coup et de continuer, en fait, de souligner tout ce qui se fait en matière de personnalisation des soins et de rendre un petit peu les approches en matière de santé plus humaines. Merci beaucoup et chapeau à vous deux.
Merci de nous avoir reçus.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Fabrice Ville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président cofondateur de l'organisme Pour Trois Points. Et je le disais tout à l'heure, lors de mon introduction, Fabrice, il y a beaucoup de sportifs qui, se sont énormément démarqués par leur performance sportive. On peut penser à des gens comme Louis Garneau, comme Joey Junot, André Agassi, mais qui maintenant sont impliqués dans leur société et sont des moteurs de changement. C'est un petit peu ce que vous voulez faire avec Pour Trois Points, en fait, à former des entraîneurs pour qu'ils puissent... transmettre des valeurs, de bonnes valeurs à de jeunes sportifs.
Tout à fait. Vous l'avez dit, donc, la mission de notre organisation, c'est de transformer les coachs sportifs en coach de vie ou en mentor pour les jeunes athlètes en milieu défavorisé. Et l'idée derrière, c'est de faire en sorte que, justement, les coachs se trouvent dans une position à former les jeunes au-delà du contexte sportif. Les jeunes éduqués, je veux engager dans leur vie. Donc, il y a vraiment une vision aller du développement qui dépasse le cadre sportif. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre intervention est prise par le fait que, malgré l'influence énorme que les coachs en contexte sportif ont sur les jeunes athlètes, il y a une faible jeunes qui ont une façon adéquate.
Fabrice, je dois vous interrompre parce qu'on vous entend très, très mal. En fait, votre voix coupe. Vous êtes peut-être dans un gymnase de basket en ce moment. Est-ce que c'est possible d'être dans un coin où vous ne bougez pas du tout parce que malheureusement, on peut vous entendre?
Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant?
Un tout petit peu mieux, Fabrice.
j'essaie de voir comment je peux m'arranger autrement, mais c'est l'imitation d'où je me situe, malheureusement. J'en suis désolé. Donc, est-ce que c'est mieux en ce moment?
Un petit peu mieux. On le sait, hein, les gymnastes sont souvent isolés. En effet, Fabrice Ville. Maintenant, c'est quoi le profil des jeunes que vous accompagnez?
Alors, les jeunes qu'on encadre sont des jeunes de niveau secondaire qui se trouvent à être dans les écoles de milieux défavorisés. Donc, notre organisme collabore avec 7 écoles secondaires à travers l'île de Montréal. Et les jeunes dont on parle sont des jeunes qui, oui, sont en milieu défavorisé, qui ont entre 12 et 17 ans, souvent de quartiers multiethniques par ailleurs. Mais c'est des jeunes qui partagent un point commun. Ce sont des jeunes qui sont motivés par une chose, ils sont motivés par le sport. Donc, d'entrée de jeu, ces jeunes-là ont un certain intérêt. Et le rôle de nos coachs, c'est de voir à ce que cette motivation-là bien, soit transposée dans d'autres sphères de la vie des jeunes, à l'école, dans la famille, dans la communauté en général.
Et ce que je trouve intéressant, Fabrice, c'est que lorsque vous approchez ces jeunes sportifs-là, vous ne partez pas de ce qu'ils n'ont pas, mais plutôt vous démarrez déjà d'entrée de jeu avec leurs forces.
Exactement. Alors, et vous avez tout à fait raison, puis c'est là un peu, on peut regarder une situation, surtout dans un contexte de défavorisation, comme voyant le verre à moitié vide, comme on dit souvent. Oui. Nous, on regarde l'inverse, on regarde le verre à moitié plein. C'est de se dire quelles sont les forces du jeune, sur quoi est-ce qu'on peut bâtir. Et à la base, bien, cette notion de motivation, elle est hautement importante. Donc, un jeune qui est intéressé à son sport va généralement être passionné. Donc, il va être à l'heure pour être présent à ses pratiques et ses matchs. Il va donner un niveau d'effort qui ne le donnerait pas souvent dans d'autres contextes. Donc, de partir de là, puis de bâtir sur cet intérêt-là, cette volonté-là, puis de démontrer qu'il y a une possibilité de former d'autres apprentissages, et de tisser d'autres apprentissages, c'est hautement important. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne regarde pas nos jeunes dans un contexte de déficit, mais qu'on regarde vraiment le côté des forces de nos jeunes.
Oui. Et pour ce faire, vous formez des super entraîneurs, Fabrice, c'est-à-dire des entraîneurs qui vont amener, qui vont veiller à ce que ces jeunes-là transportent leur effort du terrain de basketball jusqu'en classe, jusque dans leur vie personnelle. Comment vous les choisissez, ces entraîneurs-là?
Alors, ce qu'on regarde chez nos entraîneurs, c'est vraiment leur capacité à devenir des leaders positifs à long terme dans les milieux qu'on vise. Et essentiellement, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'avoir un effet multiplicateur auprès de nos jeunes. Un coach qu'on forme a le potentiel, s'il prend par exemple en contexte de basketball, disons, le potentiel d'avoir un impact sur 12 jeunes par année. Mm-hmm. Est-ce qu'on voit ce coach-là avoir un impact à long terme au niveau du coaching? Est-ce que ce coach-là va devenir un responsable sportif qui va influencer d'autres coachs à avoir des pratiques positives? Est-ce que ce coach-là va faire en sorte que des jeunes deviennent eux aussi entraîneurs? C'est ce qu'on réfléchit. Par ailleurs, maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par un coach qui a le potentiel de devenir un coach positif? Donc, bien entendu, la capacité d'apprendre, c'est une chose. La capacité à interagir avec des différentes parties prenantes au niveau du leadership, c'est super important. Et quand on parle plus spécifiquement de l'intervention, ce sur quoi on met énormément l'accent, c'est d'avoir une approche auprès du jeune qui vise à l'autonomiser et de voir à ce que le coach ne soit pas un individu qui est dictatorial, mais au contraire, qui a une approche démocratique qui fait en sorte que le jeune est impliqué dans son propre apprentissage, faire en sorte que le jeune devienne lui-même engagé. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ultimement, on voit des résultats puis qu'on souhaite avoir des résultats.
Et j'imagine que l'une des grandes retombées de Pour trois points, c'est que le jeune a du succès ou en tout cas du moins qu'il se sent compétent dans son sport et qu'il a envie également de bien performer, de bien réussir dans sa vie personnelle. C'est l'estime de soi.
Exact. Alors, notre organisation est partenaire du laboratoire de recherche en psychologie sportive à l'Université McGill et on travaille avec eux à développer chez les jeunes 4 types d'habiletés de vie. Et d'où la notion un peu qu'on dit souvent, pour nous, le sport, c'est l'école de la vie. Donc, un coach sportif qui fait bien son travail, c'est un coach de vie. Et les 4 grandes habiletés en question, qu'on appelle les 4 C, ce sont le sentiment de compétence, donc d'être bon dans un domaine, le sentiment de confiance, donc le bien-être du jeune en général, la force de caractère, donc vraiment le sens de responsabilité du jeune, la capacité du jeune à faire face aux échecs, aux erreurs, donc vraiment la résilience du jeune, et finalement la connexion, donc la capacité du jeune à interagir des liens positifs, non seulement avec ses collègues, mais également avec ses autres entraîneurs, les enseignants, la communauté. Donc les 4 C, compétences, confiance, connexion, caractère, ce sont vraiment les habiletés qu'on vise à développer chez nos jeunes à travers l'enseignement de nos coachs.
Et en même temps, j'imagine que, et on va se laisser là-dessus, Fabrice Ville, pour des jeunes pour qui parfois le père peut être absent, on parle de famille monoparentale, eh bien le coach, l'entraîneur devient une figure très importante, un modèle positif. Et ça, c'est juste du bon pour nos jeunes et pour ces futurs citoyens. Fabrice Ville, je rappelle, vous êtes président et cofondateur de l'organisme Pour trois points. Ça a été un plaisir d'arriver finalement à vous parler aujourd'hui.
Bien, c'est bien gentil. Je vous remercie beaucoup.
Au revoir, Fabrice.
Au revoir.
Eh bien, nous, on se donne rendez-vous à demain. Portez-vous bien. Bye-bye.